Il est complètement fou, ce mec.
Alors, promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Bonjour à tous et bienvenue dans Complètement à l'Ouest, l'émission de Radio Immo qui vous parle de tout, sauf d'immobilier. Et oui, c'est notre spécialité. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude en compagnie de Philippe Boyer. Bonjour Philippe.
Bonjour Johanna.
On va parler numérique aujourd'hui.
Oui, en effet, on va parler numérique, on va parler voyage au bout d'un clic. Alors que se passe-t-il lorsque nous cliquons sur ce fameux symbole pouce levé pour liker une photo de vacances ? Que se passe-t-il lorsque nous envoyons un email, non pas simplement lorsque nous appuyons sur le bouton envoi, mais tout ce que cette action mobilise d'énergie et d'infrastructure physique pour que nos selfies et nos pièces jointes arrivent à bon port quasiment instantanément. Désolé de cette déconvenue, mais le numérique n'a rien de virtuel, il n'a rien de magique, il ne tombe pas du ciel comme si des dieux se seraient décidés à doter les habitants de cette planète d'un pouvoir démiurge et d'une ubiquité afin que le moins de nos désirs numériques s'exécute immédiatement. Pour avoir une idée de tout ce que ces actions numériques banales, anodines, génèrent, il faut lever le voile sur ce monde fait de 0 et de 1. Dit autrement, il nous faut plonger dans les soutes de l'Internet. On s'apercevra alors qu'Internet mobilise une infrastructure insoupçonnée de serveurs, de routeurs, de câbles sous-marins, de satellites, sans oublier les milliers de data centers ainsi que ces terres et métaux rares indispensables au fonctionnement de toutes ces infrastructures jusqu'à nos smartphones ou encore l'énorme, la colossale puissance électrique qu'il faut faire fonctionner cette infrastructure mondiale qui s'étend sur Terre, dans les airs et sous les océans. Vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui mener l'enquête pour comprendre ce qui se cache au bout d'un like. Nous allons parler réel pour comprendre le virtuel. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Guillaume Pitron.
Bonjour Philippe Boyer.
Cela faisait longtemps que j'avais envie de vous accueillir à ce micro. Vous êtes journaliste et réalisateur de documentaires et votre précédente enquête sur les métaux rares indispensables au fonctionnement de tous nos objets numériques a été un véritable succès de librairie. Je fais bien sûr référence à la parution de votre avant-dernier ouvrage, La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, qui a été traduit dans une douzaine de pays et qui a aussi été décliné notamment en documentaire pour Arte. Alors vous êtes aujourd'hui à ce micro suite à la parution de votre livre paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. Ce livre porte le titre sans ambiguïté, L'Enfer Numérique, avec pour sous-titre Voyage au bout d'un like. Là aussi, un grand succès de librairie et désormais une référence pour qui veut comprendre les dessous de l'Internet. Alors vous le découvrez, mais chacune de nos émissions commence toujours par un court extrait sonore en référence à notre sujet et là, nous allons nous plonger dans tous les sens du terme dans ce thème de l'enfer numérique. On l'écoute.
Ce matin-là, surprise pour ces surfeurs. Cet immense navire s'apprête à transformer leur spot préféré en un point d'accès à Internet le plus rapide de France.
Eh bien écoutez,
Il y en a qui surfent grâce à Internet et nous on surfera dessus.
Et là vous vous dites, Internet dans l'océan, qu'est-ce que ça signifie ? Vous pensiez peut-être que tout se passait au-dessus de nos têtes. Dans les nuages, le fameux cloud, grâce aux satellites. Raté. 99% de nos échanges sur Internet passent dans des câbles sous-marins. Partout sur la planète, plus d'un million de kilomètres de câbles relient tous les continents, 25 fois le tour de la Terre.
Quelle que soit la météo, quand vous surfez sur Internet avec votre téléphone portable, vous vous connectez sans fil à une antenne relais, oui, mais ensuite tout passe par des câbles. Sur Terre, puis sous l'océan, si vous vous connectez par exemple à des sites américains comme Google, Facebook ou Amazon, et ils sont incontournables.
Justement, ce jour-là au nord d'Arcachon, un nouveau câble sous-marin financé par Facebook et Orange doit être installé sous la plage pour ensuite relier la France aux États-Unis.
Il y a deux chapitres dans votre livre qui traitent à la fois du sujet des câbles sous-marins et un autre chapitre de la géopolitique des infrastructures numériques. Et on voit que ces deux sujets sont étroitement liés. Alors vous décrivez notamment comment les grandes puissances, et en particulier les GAFAM, se livrent une guerre sans merci pour le contrôle des autoroutes de l'information sous-marine. C'était dit dans l'extrait, 99% à peu près du trafic mondial Internet passe par les câbles sous-marins. Donc deux questions pour commencer. Première question, quels enjeux pour l'Europe de cette géopolitique du câble Internet sous-marin qui ceinture notre planète? Et puis, deuxième question, est-il encore possible de tirer notre épingle du jeu, nous les Européens, pour asseoir ou tenter d'asseoir notre maîtrise de l'Internet?
D'abord, vous l'avez dit, nos vies ne seraient pas connectées si nous n'étions pas tous reliés par 450 câbles sous-marins. Donc cette idée de l'Internet sans fil est une illusion. La mobilité sans fil n'existe pas, nous n'avons jamais été autant reliés par des fils que nous ne le sommes actuellement en 2022. L'Europe a bien évidemment besoin de ces câbles sous-marins pour ses communications. 99% des communications Internet passent par les câbles. L'Internet spatial, c'est peut-être pour demain, mais c'est en tout cas pas pour aujourd'hui. D'où la question de savoir qui est capable de déployer ces câbles, qui a la maîtrise industrielle et technologique pour leur déploiement, et puis qui ensuite possède ces câbles, qui en est les propriétaires. Et c'est là, ce sont là effectivement deux gros enjeux, deux immenses enjeux de souveraineté pour n'importe quel pays, mais notamment pour l'Union européenne. L'Europe qui voit monter en puissance les GAFAM, à commencer je pense en particulier à Google et Facebook, qui en fait se rendent de plus en plus propriétaires des câbles sous-marins de la sorte, ils contrôlent à la fois le contenu et le contenant. C'est un peu comme si Renault possédait les autoroutes françaises. Et il y a un vrai sujet aujourd'hui pour les acteurs publics français notamment, mais pas que français, d'être en mesure d'être propriétaire ou copropriétaire des câbles qui arrivent jusqu'aux côtes françaises. C'est le cas du câble Google qui s'appelle Dunant, qui a été déployé un peu plus tôt que le câble dont nous avons parlé à l'instant sur les côtes de Vendée en 2020. Orange est copropriétaire de ce câble. Et puis également la question de la souveraineté sur les navires câbliers, sur l'industrie des navires câbliers. Qui est en mesure aujourd'hui de déployer ces câbles? Très peu d'acteurs en fait, notamment les Japonais, NPEC, une entreprise américaine et également le français, je pense en particulier au français ASN Submarine Networks, qui est une entreprise qui est aujourd'hui en fait française mais détenue par des intérêts finlandais, et donc ça pose la question de la souveraineté sur ces entreprises qui ont un savoir-faire unique sans lequel nous ne pouvons pas aller sur Internet. Donc on voit cette question de la souveraineté industrielle surgir lorsqu'on parle des câbles sous-marins.
Alors on voit 99% du trafic passe par ces câbles sous-marins, pour autant le trafic Internet continue à augmenter, donc il y a toutes les chances d'espérer que la France, l'Europe puisse prendre sa part du jeu dans ces câbles sous-marins. Tous les câbles sous-marins ne sont pas encore posés, loin de là, et puis il faudra pour certains d'entre eux les remonter à la surface et les changer.
Alors, aujourd'hui, on en compte donc 450 environ. On conjecture, ce n'est qu'une estimation, mais on pense qu'il y aura deux fois plus de câbles en 2030 par rapport à aujourd'hui. Donc la question, c'est par où vont passer les autres câbles? Donc déjà, les câbles ne vont pas passer que par l'Europe, ils vont passer par le monde entier, et c'est là où on voit aussi la Chine monter en puissance sur dans cette industrie. La Chine veut avoir ses propres câbles, ne veut pas dépendre d'infrastructures notamment contrôlées par des intérêts américains pour faire fonctionner son propre Internet. La question ensuite est celle de savoir, ce que vous me posez la question, c'est celle de savoir comment est-ce que l'Europe à l'avenir peut tirer son épingle du jeu. Mais en fait, ça nécessite, selon cette logique-là, une réindustrialisation de notre capacité de déploiement, mais aussi de réparation. Il faut que nous soyons capables, pardon, de fabriquer les répéteurs, qui sont en fait ces espèces d'outils qui font la forme d'une torpille d'infrastructures qui sont déployées tous les 80 km au fond des océans et qui permettent de répéter le signal.
L'actualité géopolitique fait surgir de nouvelles inquiétudes concernant notamment le sabordage de ces câbles Internet sous-marins. Et en vous lisant, on peut se poser la question de savoir si ces infrastructures qui sont essentielles et cruciales, comme les gazoducs ou les oléoducs, sont bien protégées. Est-ce que vous savez, Guillaume Pitrot, si ce scénario a fait l'objet d'études spécifiques, notamment de la part de la DGSE ou du ministère des Armées?
Évidemment, ces câbles sont des infrastructures stratégiques, critiques et vitales. Ces câbles peuvent être à la fois sectionnés et ils peuvent être écoutés. Et il est de notoriété publique que la France, mais aussi les États-Unis, la Chine, la Russie sont en mesure d'écouter les câbles et également de les sectionner si jamais, en cas de guerre, on veut brouiller les infrastructures de communication du voisin. C'est d'ailleurs un sujet dont s'inquiète tout à fait officiellement notre ministre des Armées, Florence Parly, qui a pris position, qui a pris la parole pas plus tard qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, en disant qu'elle s'inquiétait qu'un submarin, un submersible russe en particulier, fasse un peu trop son chemin le long de 2 câbles sous-marins qui reliaient l'Europe aux États-Unis, et donc ce submersible russe qui s'appelle le Yandar frayait au large de l'Irlande. La question étant de savoir dans quelle mesure il pouvait justement couper ce câble, le sectionner ou en tout cas l'écouter. Donc effectivement, pour la France et pour l'Europe, la question de leur protection va être nécessaire, mais on les protège comment ? On les protège en déployant nos armées ? En déployant nos propres submersibles qui sont capables de faire savoir aux submersibles d'en face qu'il éventuellement il est repéré. Je pense qu'il faut d'abord, à mon avis, davantage protéger les stations d'atterrage. Les stations d'atterrage, c'est en fait la borne sur le territoire émergé à l'arrivée du câble lorsqu'il sort de l'eau, par laquelle en fait transite l'information qui ensuite va être répétée directement sur la terre ferme. Et ces stations d'atterrage sont très stratégiques, et donc il s'agit pour la France de les protéger sur son propre territoire et de s'assurer qu'il n'y a pas toutes sortes d'écoutes qui peuvent être faites sur ces infrastructures qui sont hyper stratégiques à l'arrivée des câbles en sortant de la mer.
Alors, ouais, l'un des grands mérites, je trouve, de votre livre, c'est de détailler vraiment étape par étape l'empreinte de l'industrie numérique mondiale. D'ailleurs, on comprend mieux le sous-titre de votre livre, hein, Voyage au bout d'un like, lorsqu'on arrive au chapitre, il y en a 2, que vous consacrez à la gabegie électrique que nécessite le numérique. Vous écrivez, je vous cite, que les technologies digitales mobilisent 10% de l'électricité produite dans le monde et rejettent près de 4% des émissions globales de CO2, soit à peu près le double de l'aérien civil mondial. Alors vous mettez les choses en perspective en rappelant des faits très concrets. Je veux juste en citer 3. Premier fait, un email avec une pièce jointe, c'est l'équivalent, lorsque l'on l'envoie, d'une ampoule électrique allumée pendant 1 heure. Le visionnage 1,7 milliard de fois du clip Gangnam Style, ce fameux clip coréen, c'est la consommation, dites-vous, annuelle d'une ville comme ici les Moulineaux. Les besoins électriques d'Amazon Web Service proviennent à 30% du charbon, idem pour Netflix, lequel génère, rappelons-le ou disons-le, 15% du trafic Internet mondial. Alors, question très naïve, est-ce qu'il est encore possible, pour la sauvegarde de notre planète, que cette expansion électrique liée au numérique soit finalement limitée ?
On pourrait l'espérer si nous mettons le paquet sur la recherche, le paquet sur l'innovation, pour développer et améliorer l'efficacité, la performance des technologies de stockage, notamment des données. Et ceci, on le voit tous les jours, on voit l'industrie améliorer en permanence ces performances-là. On voit également l'industrie faire un effort particulier pour verdir son mix électrique, de façon à ce que l'électricité produite et dont ils ont besoin vienne moins du charbon et provienne davantage des technologies dites vertes. On le voit également en constatant que les GAFAM, je pense en particulier à Facebook, veulent réorganiser la géographie du cloud, si je puis dire, en allant installer les data centers dans lesquels donc sont stockées nos données dans le Grand Nord, dans des zones naturellement froides, où il n'y a pas besoin de faire fonctionner des climatiseurs très énergivores. On est refroidi naturellement par le climat. Et donc ça, ce sont des technologies qui, effectivement, peuvent laisser espérer que, eh bien, on va précisément répondre positivement à votre question. Simplement, en face de cela, il y a un effet rebond. C'est-à-dire que nous consommons toujours davantage de données, et l'Internet des objets, et puis demain l'Internet des sens, l'Internet des corps, l'Internet des yeux, l'Internet des oreilles, l'Internet de tout, ce futur intégralement connecté, qui est déjà promis par la Silicon Valley, vers lequel nous allons, eh bien lui, en fait, il vient au contraire accélérer notre consommation de données et la consommation électrique afférente. Qui va gagner la course de vitesse ? Je ne sais pas. Mais moi, je suis assez pessimiste. Je crois que nous allons vers une telle expansion de l'univers de l'Internet, sans parler des NFT, des crypto-monnaies, du métavers. Je vois mal, dans ce contexte-là, comment l'avenir est autre chose qu'une accélération de notre consommation de données, et donc d'électricité pour les données, et donc une accélération de l'impact écologique du numérique.
Donc, à vous écouter, nous sommes condamnés à vivre avec cette expansion des besoins d'énergie électrique pour abreuver notre soif d'Internet.
Moi, je pense... Alors, le mot condamné laisse à penser que nous ne sommes pas responsables de cela. En fait, nous sommes complètement responsables de cela. Nous voulons ce numérique-là. Nous voulons ce type de mode de vie-là. Quand j'entends parler de sobriété, il faudrait être sobre. Mais ça veut dire quoi être sobre ? Revenir à l'iPhone 2, à l'iPhone 3 ? Personne ne va revenir à l'Internet de papa. Donc, effectivement, nous, collectivement, souhaitons accélérer vers cela. Nous sommes tous obnubilés par les crypto-monnaies, le métavers. À l'heure où l'Europe se demande comment être davantage souveraine, la question de la souveraineté sur ses infrastructures, sûr, va se poser davantage. Il vaut mieux avoir notre propre réseau 5G que le réseau 5G des Chinois ou de je ne sais qui. Et donc, en fait, cette accélération-là, qui est aussi une accélération des rapports de force géopolitique, nous conduit inévitablement, effectivement, à ne pas, à ce que les enjeux écologiques autour du numérique soient toujours plus prégnants demain. Et je vois pas une je ne vois qu'une contradiction entre l'enjeu géopolitique que génèrent les enjeux, les questions numériques, et en même temps les questions écologiques qui en fait passent complètement au second plan derrière en fait les questions de souveraineté.
On va marquer une petite pause musicale pour marquer la mi-temps de cette émission. C'est un titre que vous avez choisi, Guillaume Pitron. Ça s'appelle Priostess. C'est signé du groupe Puma Rosa. C'est un groupe de rock très prometteur de la scène londonienne. On l'écoute et on revient juste après dans Complètement à l'Ouest.
Philippe Boyer.
De retour en studio pour ce numéro de Complètement à l'Ouest dédié au numérique avec notre invité Guillaume Pitron. Guillaume, toujours avec cet objectif d'expliciter les impacts du numérique, vous évoquez à plusieurs reprises le fameux cloud, hein, le nuage qui gère et stocke des milliards de données dans des data centers, et vous dites, je cite, que l'humanité se noie littéralement dans un océan de données. Et là encore, à la lecture de votre livre, on se demande si on a encore le choix par rapport à ces données. Vous posez d'ailleurs cette question, souhaitons-nous réellement que le moindre de nos comportements soit entièrement transformé en données pour ces plateformes? Une question finalement presque philosophique que vous nous posez là.
En fait, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Si le service numérique, un email, un réseau social que vous consommez est gratuit, c'est qu'en échange de cela, eh bien en réalité, vos données sont ponctionnées. Et ces données, ensuite, elles vont servir à produire de la publicité ciblée dont vous allez être le destinataire. Mais c'est une question qui se pose pour nous, c'est qu'une fois qu'on a posé l'enjeu de la captation des données d'un point de vue écologique, y compris d'ailleurs en termes de protection de la vie privée, hein, et qu'on voit tous ces sujets-là, la question est celle de savoir si nous sommes continuellement prêts à donner de nos données, quand bien même nous aurions l'illusion d'un Internet gratuit, ou est-ce que nous reprenons le pouvoir sur notre vie privée, mais aussi est-ce que nous participons de réduire l'impact du numérique en acceptant que ces services soient payants? Et je pense que ce sont fondamentalement les questions que ça pose. Je crois que nous sommes drogués à ces outils-là, d'autant plus agréables à consommer qu'ils sont précisément censément gratuits. Si la vidéo de chat coûtait 1 euro, personne ne regarderait de vidéo de chat. Or, nous passons notre vie à regarder les vidéos de chat. Et donc, toutes nos vies sont médiées par ces plateformes que sont Google, que sont Facebook, qui passent leur temps, en fait, à précisément ponctionner ces données pour, en fait, un petit dernier shoot de numérique.
Alors, nous sommes dans les studios de Radio Immo et tout ce qui a trait quand même à l'immobilier et à la ville nous intéresse. Justement, et sur ce sujet de la ville, vous consacrez des lignes à la fameuse Smart City, la promesse de ces villes dites intelligentes, et vous zoomez en particulier sur Masdar, qui est une ville, une Smart City, une ville intelligente en construction en Arabie Saoudite. Est-ce que vous êtes sceptique, pour pas dire critique, au sujet de ces villes intelligentes? Et si oui, est-ce que c'est lié uniquement à l'empreinte écologique de ces villes, ou est-ce que vous êtes plutôt, par nature, en tout cas c'est ce qui semble se dessiner, plutôt techno-sceptique en général et en particulier vers ces villes dites intelligentes?
Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire techno-sceptique. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas techno-béa. Je me méfie par définition de la posture qui consisterait à dire que les grands problèmes face auxquels nous nous trouvons aujourd'hui vont être réglés par la technologie. Et ça, je n'y crois pas. Et donc, j'aime bien rentrer dans le détail de ce que propose une technologie, voir concrètement quels ont été ses effets, s'ils ont été mesurés, si on peut les apprécier, et puis d'avoir une appréciation qui soit techno critique. Et la Smart City est l'exemple même, à mon avis, de la nécessité d'avoir une approche technocritique. Parce que ça fait des décennies qu'on nous dit que la Smart City, c'est le problème à tous les sujets environnementaux, lorsqu'on parle de la lutte contre le réchauffement climatique au niveau des villes. Et 50% de l'humanité aujourd'hui, de l'humanité, vit dans les villes. Or, ce que l'on regarde les performances écologiques des Smart City, et je prends en particulier l'exemple de Masdar City au Moyen-Orient, mais on pourrait prendre d'autres exemples. En fait, les spécialistes qui ont étudié spécifiquement la question, que je cite dans le livre, se montrent très très réticents quant à l'impact écologique globalement positif de ces Smart City. À l'échelle locale, une Smart City, c'est bien. Si ça vous permet notamment de fluidifier le trafic, parce que vous avez des capteurs sur les feux rouges qui font que ça va fluidifier le trafic et ça va faire baisser les émissions de CO2 des voitures. Très bien. Mais à l'échelle globale, il faut aller chercher toutes les matières premières de la Smart City. Il faut les nourrir d'électricité, et l'électricité, elle provient du charbon, du gaz naturel, du pétrole. Il faut les stocker, les données, on les stocke partout sur Terre et ainsi de suite. Et bien en fait, le calcul global de ces gains positifs à l'échelle locale versus les gains négatifs, les coûts négatifs à l'échelle mondiale, montrent qu'on est peut-être plutôt sur un coût qui est négatif. Je ne crois pas que c'est faire preuve de techno-scepticisme ou de technophobie que simplement d'aller chercher les spécialistes de la question, de dépasser les discours publicitaires et de regarder objectivement qu'est-ce que nous promettent ces Smart City. Et ça ne veut pas dire, Philippe Boyer, qu'il ne faut pas y aller. Moi, je suis pour la Smart City sur le principe. Mais attention, mesurons bien, précisément, calculons-le, formalisons-le, la direction que nous prenons et comment nous faisons pour corriger ce qui n'est pas perçu, malheureusement, comme étant déjà des externalités négatives de ces Smart City à l'échelle mondiale.
Contrairement à ce qu'on peut penser, le numérique, c'est du palpable. Hein, et ça, vous nous le dites dans votre livre, dans le troisième chapitre que vous avez intitulé « La matière noire de l'immatériel ». Vous donnez finalement la très longue liste des ressources naturelles qui sont nécessaires à la fabrication d'un produit ou d'un service numérique. Si on voulait résumer ça, on pourrait dire que le monde numérique est avant tout un monde de métaux rares, à la fois difficiles et coûteux à extraire et qui ont un fort impact sur la nature. Alors, en dehors du fait que ce n'est pas très réjouissant, vous nous dites qu'il faut jusqu'à 4 fois plus de cuivre pour une voiture électrique que pour une voiture avec un moteur thermique. Et quand on sait que nos smartphones sont fabriqués à base de cobalt, de lithium, de néodyme, d'indium, mais aussi d'or et d'argent, est-ce qu'il existe une possibilité que le numérique soit un jour basse ressource, c'est-à-dire qu'il pourrait réconcilier, qu'on pourrait plutôt réconcilier technologie et nature ?
Énorme question, ça va être très difficile de répondre de façon très courte.
C'est aussi l'objet de vos premiers livres, c'est ça?
C'est l'objet du premier livre, bien sûr, sur les métaux rares. Un monde bas carbone est un monde de métaux, un monde bas carbone est un monde haute ressource. Il faudra plus de ressources métalliques pour pouvoir produire moins de charbon et moins de pétrole. Et le monde numérique est un monde haute ressource. En fait, il faut toujours plus de métaux pour produire les technologies du virtuel. Et non seulement le virtuel et matériel, mais en plus, ce que l'on découvre, c'est que plus c'est virtuel, plus c'est matériel. Parce que l'impact matériel de la fabrication d'un téléphone qui peut contenir jusqu'à 75 métaux est tellement énorme qu'il est bien plus lourd que la fabrication de n'importe quel objet non électronique de notre quotidien. Donc plus les technologies sont électroniques, plus il faut aller creuser, plus l'impact matériel est lourd, et plus finalement cette idée de dématérialisation n'existe pas. Et plus on se rend compte que ça fait 5000 ans qu'on essaye de dématérialiser, mais qu'en dématérialisant, soit par l'écriture, soit par la monnaie, soit par la lettre de change, soit par le numérique, en fait on ne fait que matérialiser autrement. Et encore une fois, c'est une évolution qui est inévitable. On le sait, c'est déjà annoncé par notamment l'Université de Grenoble qui le dit depuis 5 ans, que l'humanité va consommer dans les 30 prochaines années davantage de métaux que tout ce qu'elle a consommé depuis 70 000 ans. Donc je vois pas un monde basse ressource dans cette affaire-là. Ça veut pas dire qu'on doit pas faire d'économie circulaire. Ça veut pas dire qu'on peut pas optimiser la consommation de ressources en faisant de la mine intelligente, en collectant les déchets électroniques, en allongeant la durée de vie des produits électroniques, en recyclant davantage, en éco-concevant. Mais globalement, il faut pas se leurrer. On est dans un monde qui est toujours plus accro à la consommation de ressources. Et même les technologies les plus évoluées d'économie circulaire ne vont pas permettre d'inverser cette tendance. Alors on pourra peut-être pouvoir la stabiliser ou la freiner, mais pas l'inverser. C'est d'une évidence absolument biblique dans le monde des chercheurs et des industriels.
Alors vous écrivez à la page 227, pour être précis, qu'il nous faut individuellement résister, c'est-à-dire, je vous cite, agir pour reprendre le contrôle de nos existences vis-à-vis du numérique. Alors vous citez, vous l'avez dit à l'instant, désactivation des notifications, suppression des applications les plus addictives, prise de distance avec les réseaux sociaux dont les algorithmes encouragent l'indignation des utilisateurs, on sait bien tout ça. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ces initiatives individuelles sont suffisantes. Alors il y a la dernière phrase que vous citez là, à votre livre, dans votre livre, c'est cette phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous désirez voir en ce monde ». Mais est-ce que ces mesures de changement, de résistance, finalement, est-ce que ne sont pas quelque part hors d'échelle par rapport à l'urgence climatique et aux enjeux du numérique, qu'ils soient géopolitiques, éthiques ou sociétaux, comme vous avez déjà pu les citer ?
Je suis assez circonspect par rapport à l'effet colibri, à la méthode du colibri. Effectivement, c'est bien de vouloir nettoyer sa boîte mail, c'est sympa, ça économise quelques octets, mais à l'heure de l'internet de tout et du métavers, c'est une goutte d'eau dans l'océan finalement. Et donc, se donner bonne conscience de la sorte, n'est-il pas un pis-aller pour en fait, finalement, ne pas agir sur l'essentiel. Néanmoins, je pense que c'est indispensable de commencer par là, parce que si on commence pas par là, par quoi commence-t-on ? Il y a aussi un effet éducatif à suivre un tuto sur un site internet qui précisément nous permet de vider nos boîtes mail.
Mais on regarde sur internet.
Et on regarde sur internet, mais c'est un internet qui, à mon avis, a un usage plus intelligent, plus utile que la futilité d'une vidéo de chat sur TikTok. Mais en tout cas, je pense qu'il faut passer par là. Il faut également, et ça c'est un geste quotidien très concret, c'est garder ses équipements électroniques le plus longtemps possible. La pollution du portable, et plus généralement de l'interface, écran, ordinateur, tablette, c'est 50, 60, 70% de la pollution du numérique. Donc si vous gardez votre téléphone portable deux fois plus longtemps, vous êtes, je grossis volontiers, mais en mesure de diviser par deux le principal poste de pollution du numérique. Donc ça, c'est très important. Et puis après, et votre question est vraiment intéressante en ce point, c'est que, en fait, tout cela ne doit pas nous freiner dans, à mon avis, une réflexion plus globale et plus politique sur nos usages que nous voulons faire demain du numérique. Est-ce que le numérique doit être gratuit ? Si c'est gratuit, on va générer de l'effet surconsommation de données, l'effet open bar. Au contraire, si on remet du coup dans Internet, mais ce qui est complètement contradictoire avec la réduction de la fracture numérique, mais posons-nous cette question. Je n'ai pas la réponse, mais posons-la nous. De même, est-ce que nous ne devons pas prioriser certains usages ? Est-ce qu'il y a certains usages du numérique, l'hôpital connecté par exemple, qui sont plus utiles que d'autres usages du numérique que sont les crypto-monnaies quand c'est pour de la pure spéculation ?
Ça voudrait
Et
dire
dans
quoi
ce cas-là, est-ce que la ressource, est-ce que le réseau et est-ce que des modèles économiques des fournisseurs de bandes passantes ne doivent pas précisément prendre en compte cette priorité des usages et faire en sorte qu'eh bien peut-être certains usages soient plus payants, moins payant que d'autres, ou avec accès à une bande passante plus rapide ou moins rapide que pour d'autres. Et ça, c'est des sujets sur lesquels déjà on réfléchit. Mais là aussi, je ne dis pas que j'ai la réponse. Ce sont des questions qui sont presque scandaleuses à l'heure de l'Internet qui nous permet de tout faire. Mais je pense qu'on ne peut pas, à mon avis, à un moment, échapper à ces questions qui sont collectives et in fine se poser la question de c'est quoi le bon Internet et c'est quoi le mauvais Internet. Mais c'est une question qui est affreusement compliquée. Parce qu'à la sortie d'un hôpital connecté, on vous dira que le meilleur Internet qui soit, c'est l'hôpital connecté. Mais à la sortie d'un collège, on vous dira que le meilleur Internet qui soit, c'est TikTok. Surtout entre ces heures de confinement où on a besoin de ces outils aussi pour rester en contact et générer du lien social. Mais moi, je pense que ces enjeux sont, à un moment, ne peuvent uniquement être traités que si ce sont les États, les organisations et si qui s'en mêlent, si c'est non pas le consommateur mais le citoyen qui s'en mêle. Donc si nous avons une approche beaucoup plus publique que chacun notre petit coin sur ces questions-là. Voilà, moi je crois qu'effectivement, c'est que par cette voie-là qu'on peut réussir à prendre à bras le corps cette question de la pollution numérique.
Alors vous avez un autre chapitre aussi consacré aux robots avec ce titre « Quand les robots pollueront davantage ». Et vous écrivez dans cette partie du livre que l'IA, donc l'intelligence artificielle, pourrait accaparer la moitié de la production d'électricité en 2040 et que nous tendons vers l'Internet de tout. Vous l'avez dit, il n'y a qu'à voir à ce sujet les annonces des GAFA, en particulier Meta, sur le sujet du métaverse, où il est, où il sera possible d'interagir avec Internet ou d'être dans Internet. Alors ma question est la suivante, est-ce que ces super machines, ces super intelligences ne pourraient finalement pas se mettre au service de la planète quelque part ?
C'est bien ce qui est envisagé par plusieurs entreprises, dont IBM, qui propose en fait que notamment des technologies algorithmiques soient en mesure d'apprécier l'évolution du climat dans certaines villes chinoises 72 heures à l'avance et qui propose déjà 72 heures à l'avance une réponse automatisée à cette évolution du climat de sorte que eh bien il y ait moins de pollution au gaz carbonique, au dioxyde de carbone dans les villes. Et si on pousse cette logique jusqu'au bout, alors on écoute certains technoprophètes, je pense en particulier à Lex Kors qui est une star du monde data center et qui un jour me dit il faut en fait une IA puissante, une IA forte, dotée d'une conscience environnementale et qui soit capable de décider à la place de l'homme de la stratégie environnementale de l'humanité pour les 200 prochaines années. On est d'accord, ça ne verra pas demain le jour. Mais cette idée de dire que tout d'un coup, l'ordinateur est davantage puissant que le cerveau humain pour régler un problème d'une immense complexité qui est celui du réchauffement climatique, tout d'un coup, c'est un sujet qui est avancé précisément pour accélérer la numérisation du monde. Et donc, c'est une merveilleuse justification, avec notamment la protection de la vie humaine, que celle-ci pour eh bien, se dire que la numérisation du monde est davantage devant nous. Et je pense qu'il faut faire attention, encore une fois, à ces solutions toutes faites, qui consistent à dire que c'est la machine qui va trouver la solution à la place de l'homme et qui va nous déresponsabiliser. Question tellement passionnante et urgente et pressante qu'elle a été traitée, évoquée en 2019 à Oxford pendant une journée ou deux par un collège d'experts qui se sont penchés sur les enjeux philosophiques de l'IA éco-responsable.
Et la conclusion alors ?
Eh bien l'une des réponses qui est apportée par ces chercheurs anglo-saxons, c'est de dire attention à ce qu'une IA éco-responsable, tout à sa logique de protéger l'environnement, n'en vienne pas à décider de se débarrasser de ceux qui lui nuisent à cet environnement, précisément l'homme.
Les humains.
Question passionnante, uniquement philosophique, on est d'accord, mais passionnante.
Une dernière question pour vous et pour conclure. Vous aviez traité le sujet des métaux rares dans votre premier livre, puis celui des dessous du numérique dans cet enfer numérique. Alors, quel sera le thème de votre prochain livre, Guillaume Fitron ?
Eh bien, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est excessivement complexe de trouver la prochaine bonne idée. celle qui fait que Philippe Boyer ou vous-même, Johanna, vous rendez dans une librairie en 2024 ou en 2025, attrapez un prochain livre que j'ai écrit et vous dites « Mon Dieu, il avait pensé à un truc que je n'avais pas vu ». Et ça, c'est très compliqué d'être à la fois micro, macro, proche des sujets, des problématiques quotidiennes des gens, mais en même temps en ayant cette approche très multidisciplinaire mélangée aux politiques et écologie, tout en étant à l'avant-garde, eh bien en fait, je pense que le principal des défis pour moi, pour les prochains mois, c'est de réussir à sentir l'air du temps et sentir ce qui va arriver pour mettre le doigt sur cette idée, et puis après, sa réalisation sera beaucoup plus facile, paradoxalement. Donc je suis en plein dedans, entre la restitution qui consiste à venir vous voir à Radio Immo, et en même temps la nécessité de prendre du temps pour me plonger dans le monde qui arrive, et essayer de faire ressortir la grande idée qui marchera demain en librairie, et peut-être à votre micro.
Donc que les auditeurs écrivent directement à Guillaume Pitron, alors?
Ah oui, absolument, mais sur mon site internet, guillaumepitron.com, il y a un formulaire, je reçois ça directement sur mon email.
Magnifique.
Si vous avez des supers idées, je prends.
Magnifique. Un grand merci en tout cas, Guillaume Pitron, d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, vous nous avez ouvert les yeux sur cet univers des dessous de l'internet, et c'est vraiment passionnant. Je rappelle que vous avez publié L'Enfer numérique, Voyage au bout d'un lac, et non pas d'un lac, paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. C'est un véritable thriller qu'il faut absolument lire. Merci encore. Alors, on se retrouve le mois prochain, Johanna, pour une nouvelle émission. En attendant, cette émission peut être écoutée ou réécoutée en podcast sur les principales plateformes de podcast en ligne. Alors, j'ai bien conscience qu'en disant cela, nous allons peut-être, nous aussi, contribuer à cet enfer numérique, mais nous l'assumons en diffusant cette émission sur le cloud. Pardon par avance, et j'espère que nous serons pardonnés. Voilà. Merci.
Mais c'est un numérique utile.
C'est un numérique très utile même. Merci à celles et ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission, et notamment nos amis en régie. Allez, on garde le cap à l'ouest, complètement à l'ouest. On se retrouve le mois prochain. Merci.
Il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger.
Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.